Explication préliminaire. Je ne sais, cher lecteur, si vous vous rappelez qu'un jour, il y aura bientôt 24 ans de cela, j'ai dit « Je ferai le tour de la Méditerranée. J'en accomplirai le périple. J'écrirai l'histoire de l'Ancien Monde, qui n'est rien autre chose que l'histoire de la civilisation. » On a beaucoup ri. On s'est fort moqué de moi. Un homme à qui j'avais fait gagner 1 million s'en est vengé par un mot charmant. Il a dit « Vous ne savez pas, Dumas a découvert la Méditerranée. » Et de ce jour-là, il s'est cru quitte envers moi. Le mot avait sa valeur, mais valait-il 1 million? Valait-il Christine, Richard Darlington, Charles VII, la Tour de Nesle, Angèle, que je lui avais donnée? J'en doute. Ce voyage, ou plutôt cette série de voyages que je projetais, était difficile à accomplir sans l'aide du gouvernement et avec les simples ressources d'un homme de lettres. Mais enfin, Dieu aidant, cela ne me paraissait pas impossible. Je partis en 1834. Dans un premier voyage, je vis tout le midi de la France, depuis Sète jusqu'à Toulon. Aigues-Mortes, Arles, Tarascon, Beaucaire, Nîmes, Marseille, Avignon, Vaucluse. C'était un commencement. Je repartis l'année suivante. Cette fois, mon voyage dura 2 ans. De ce coup, je vis hier, Cannes, le Golfe Juan, Grasse, Draguignan, Nice, La Corniche, Gênes, Florence, Pise, Livourne, Turin, Milan, Pistoia, Pérouse, Rome, Naples, Messine, Palerme, Girgenti, Marsala, Syracuse, Catane. Je gravis l'Etna et le Stromboli. Je visitais les îles Lipariote. Je poussais jusqu'à Lampedusa. Je revins à Reggio. Je remontais la Calabre à pied jusqu'à Pestum. Je fus arrêté une première fois à Naples par Sa Majesté Ferdinand. J'allais revenir par Venise. Lorsque je fus arrêté une seconde fois à Foligno par Sa Sainteté Grégoire XVI, ramené par les carabiniers à Trasimène et laissé sur le bord du lac avec injonction de rentrer en France le plus tôt possible. Je rentrai en France. En 1842, toujours ferme dans ma volonté, je pris une barque dans le port de Livourne et avec cette barque qui devait sombrer 10 fois et qui ne sombra point, je visitai l'île d'Elbe, la Pianosa, la Gorgone, Monte-Cristo et la Corse. En 1846, je partis pour Madrid. Je visitai Barcelone, Malaga, Grenade, Cordoue, Séville, Cadix. J'enjambai le détroit. Je passai à Tanger, de Tanger à Tétouan, de Tétouan à Gibraltar, de Gibraltar à Melilla, de Melilla à Djemaa Gazaouat, de Djemaa Gazaouat à Oran, d'Oran à Alger. À Alger, je fis une pause. J'avais à voir dans l'intérieur Blida, le col de Mouzaïa, Miliana. Puis je repartis et m'arrêtai successivement à Djedjeli, à Kolo, à Stora, à Philippeville. J'allais à Constantine, je revins à Stora, je m'embarquai pour Tunis et les îles Kerkena. Je visitai l'amphithéâtre romain de Djedjem. Dans mon premier voyage en France, j'avais dépensé 6 000 francs. Dans mon second voyage en Italie, 18 000. Dans mon troisième voyage, 4 000. Enfin, dans le dernier, 33 000, dont il faut retrancher 10 000 qui m'avaient été alloués par le ministère de l'Instruction publique. Total, 51 000 francs. Mais la moitié de mon projet était accomplie. Qu'importait ce qu'avait coûté son accomplissement? Les ouvrages qui résultèrent de ces différentes courses furent Les impressions de voyage dans le midi de la France, Une année à Florence, La Villa Palmieri, Le Speronare, Le Capitaine Arena, Le Coricolo, De Paris à Cadix, Le Vélos. Eh bien, maintenant, il me reste à achever ce que j'ai entrepris. Il me reste à voir Venise, l'Illyrie, les îles Ioniennes, la Grèce, Constantinople, les rivages de l'Asie mineure, la Syrie, la Palestine, l'Égypte, la Cyrénaïque, Tripoli. Et d'abord, je commence, avant d'aller plus loin, parfaire mes remerciements à messieurs les administrateurs des messageries impériales qui, lorsqu'ils eurent connaissance de mon projet, m'offrirent gracieusement et sans rétribution le passage sur leur bateau pour moi et un secrétaire. C'était beaucoup, mais ce n'était pas encore là tout ce que je désirais. Voyager avec les bateaux des messageries, c'est toucher Malte, Syrah, Alexandrie, Beyrouth, Smyrne et Constantinople. C'est voir tout ce que le monde voit. C'est raconter mieux ou moins bien que les autres, mais enfin c'est raconter après les autres. Or, le voyage que je veux faire, moi, c'est un voyage que personne n'a fait jusqu'à présent. Il faut que je le fasse avec un bâtiment à moi, avec un bâtiment qui puisse tenir la mer sans trop de danger, et cependant qui ne tire pas plus d'1,50 m d'eau, afin qu'il puisse entrer dans tous les ports de l'archipel grec, aborder toutes les criques des côtes d'Asie. Ce bâtiment, je l'aurai un jour, et avant qu'il soit longtemps, je l'espère. En attendant, j'ai accepté l'invitation que m'a faite un ami d'aller à Saint-Pétersbourg être le garçon de noces de sa belle-sœur qui se marie et d'assister en même temps à cette grande opération de l'affranchissement de 45 millions de serfs. Je compte bien ne pas m'en tenir à Saint-Pétersbourg. Quand j'aurai marié la sœur de mon ami, vu la perspective Nevski, l'Ermitage, le Théâtre français, le palais de la Tauride, Saint-Paul, les îles Gélaguine, la Grande Milione, l'église de Kazan, la statue de Pierre Ier, quand j'aurai passé sur la Neva quelques-unes de ces belles nuits transparentes où l'on peut lire l'écriture de la femme que l'on aime, si fine qu'elle soit, je partirai pour Moscou. Mais d'abord, sur la route de Moscou, je trouverai Tver, la ville des 12 000 bateliers, avec son fort bâti en 1182 par Svevolod, prince de Vladimir, qui devint, comme notre Bourgogne et notre Bretagne, une principauté particulière, laquelle ne cessa d'exister qu'en 1490, sous Ivan III, le Louis XI du Nord, qui tua le second de ses fils et mit l'autre dans un cachot, ce qui ne l'empêcha pas de s'appeler Ivan le Grand, car il avait affranchi son pays du joug des Tartares, et il est toujours grand aux yeux de la postérité, celui qui chasse l'étranger de sa patrie. Puis nous entrerons dans la ville sainte, pleine encore du souvenir d'un de nos désastres grand comme une victoire. Nous monterons sur la citadelle des tsars pour voir non seulement les coupoles dorées ou peintes en verre de ses palais, les clochers de ses églises, ses quartiers, appelés la ville de terre, la ville blanche, la ville chinoise et le Kremlin, la tour d'Ivan le Grand, la plus haute de la ville qui, autrefois, renfermait une cloche pesant 330 000 livres. Son palais anguleux, l'arsenal, le théâtre, la cathédrale, mais encore la trace de ce feu terrible qui dévora une ville de 350 000 habitants et gela une armée de 500 000 hommes. Nous descendrons le cours de la rivière pour aller chercher dans les plaines de la Moscova le reste de la grande redoute où tomba Caulaincourt et où Ney reçut son titre de prince. Nous reviendrons à Moscou pour visiter ses bazars qui sont déjà l'Orient, sa place de Krasnoï, sa porte de Saint-Vladimir. Enfin, nous raconterons ces merveilleuses légendes de Menchikov, le marchand de petits pâtés, et de Catherine, la servante lituanienne. Puis nous partirons pour Novgorod la Petite, Nijni Novgorod, car ce sera l'époque de cette splendide foire qui attire les marchands de la Perse, de l'Inde, de la Chine, où l'on trouve les armes du Caucase, les argenteries de Toula, les cottes de mailles de Tiflis, où l'on vend en bloc les malachites et les lapis-lazuli, où l'on mesure les turquoises au boisseau, où l'on achète au ballot les étoffes de Smyrne et d'Ispahan, où vient enfin ce fameux thé de la caravane que la Russie paie au poids de l'argent, l'Angleterre et nous au poids de l'or. Notre curiosité assouvie, nous nous embarquerons sur le Volga, ce roi des fleuves de l'Europe, comme l'Amazone est la reine des rivières de l'Amérique, qui arrose les gouvernements de Tver, de Yaroslav, de Kostroma, de Nijni Novgorod, Kazan, Simbirsk, Saratov et Astrakhan, qui reçoit à droite l'Oka, à gauche la Soura, la Mologda, la Chechna, la Kama, l'Oufa, la Smara, et qui, après un cours de 600 lieues, tombe par 70 ouvertures dans la mer Caspienne. Alors, nous trouverons Astrakhan, avec ses trois bazars destinés aux Russes, aux Hindous et aux Asiatiques. Astrakhan qui touche de la main droite aux Cosaques du Don, de la main gauche aux Cosaques de l'Oural, qui, en tournant la tête, perd son regard dans les immenses steppes des Tatars kirghis, dont les vagues de verdure sont aussi mouvantes et aussi régulières que les flots de la mer Caspienne. Là, nous nous arrêterons quelques jours pour revoir ces hommes à la longue barbe, au bonnet pointu, aux larges culottes rouges dont la lance, l'arc et le carquois ont été l'effroi de notre enfance. Qu'une tempête de neige a enlevé au bord de l'Asie et du Turkestan et jeté comme autant d'Attila dans nos plaines et dans nos villes. Nous chasserons l'outardes sur des petits chevaux descendants de ceux qui ont mordu l'écorce des arbres du bois de Moulogne et essayé d'arracher de son piédestal de bronze la statue de Napoléon. Puis, quand nous aurons visité ces pêcheries immenses qui fournissent ces esturgeons dont la chair d'un seul ferait le repas d'un village, nous reprendrons le bateau à vapeur qui nous fera faire halte à Kislar et à Derbend en nous conduisant à Saliar. Là, nous remonterons le cours jusqu'au steppe de Karaya où une tarantas nous attendra pour nous conduire à Tiflis. Respirons un moment dans la ville chaude, ainsi nommée de ses bains sulfureux. Mettons-nous à la fenêtre du palais de la charmante princesse Marie Galitzine et regardons aller l'Europe dans l'Inde et l'Inde dans l'Europe. Nous sommes sur leur passage dans la capitale de la Géorgie, dans la résidence des rois de Kartli. Gengis Khan, au XIIe siècle, Mustapha Pacha, en 1576, l'ont prise et ravagée. Aga Mohammed Khan l'a détruite 200 ans après. Enfin, les Russes l'ont prise et rebâtie en 1801. C'est aujourd'hui une ville splendide, avec 40 000 habitants, deux archevêchés, l'un géorgien, l'autre arménien, une belle cathédrale, des casernes et des bazars. Nous sommes au pied du Caucase et nous allons avoir à passer devant le rocher où fut cloué Prométhée, et à visiter le camp de Chamil, cet autre titan qui, de même que Job l'excommunié luttait dans son bourg contre les empereurs d'Allemagne, lutte, lui, dans sa montagne, contre les tsars de Russie. Chamil connaît-il votre nom et nous permettra-t-il de coucher une nuit sous sa tente? Pourquoi pas? Les bandits de la Sierra le connaissaient bien et nous ont bien permis de coucher trois nuits sous leur hutte. Cette visite faite, nous descendrons dans les plaines de Stavropol, nous laisserons à notre droite les Kalmouks tatars, à notre gauche les Cosaques de la mer Noire, nous nous arrêterons à Rostov sur la mer d'Azov, les anciennes Palus Méotides, nous prendrons une barque et nous irons visiter Taganrog, où Alexandre mourut de regret, peut-être de remords, et Kertch, l'ancienne Panticapée des Milésiens, où Mithridate, poursuivi par les Romains, se donna la mort. De là, nous remonterons sur le bateau à vapeur qui nous déposera deux jours à Sébastopol, nous reprendra pour nous conduire à Odessa et ne nous déposera qu'à Galatz. Alors, je me retrouverai dans les domaines de mes anciens amis les Ospodars d'Iassi et de Bucarest, des Studza et des Jika. Je serrerai la main en passant au Caïmacan actuel, que j'ai connu enfant et déjà prince de Samos. Je verrai si Semlin et Belgrade sont toujours en guerre. Je remonterai jusqu'à Vienne. J'y visiterai Schönbrunn, le palais tombeau, Wagram, la plaine aux souvenirs terribles, l'île de Lobau, où Napoléon reçut du fleuve qu'il voulait enchaîner comme Xerxès le premier avertissement de la destinée. Vienne, c'est Paris. En 3 jours, je me retrouverai au milieu de vous et je vous dirai, cher lecteur, j'ai fait en 6 mois 3000 lieues. Me reconnaissez-vous ? Me voilà !